CJSO 101.7. On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO, on n'est pas toujours obligé d'être en accord, mais on peut s'en parler. Voici pour vous le rendez-vous d'affaires publiques où parfois les idées s'entrechoquent. Sur l'heure du lunch, avec Pierre Mandeville et ses invités, on a des choses à dire.
Bon midi à tous. Pierre Mandeville en ligne, en onde avec notre ami Denis Marion aujourd'hui comme co-animateur. On va rejoindre dans quelques instants notre ami Martin Baller, collaborateur régulier pour le premier segment d'actualité. On a du menu aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On va parler également de politique internationale. Là, on fera pas l'analyse du débat. Je pense que ça a pas mal été dit. On va s'en garder un peu pour la semaine prochaine. On va y toucher un petit peu, mais pas tellement. On va mentionner au niveau international la guerre en Ukraine. Notre ami Marion et notre ami Baller vont en parler. Et également en Iran, cette dame qui ne portait pas correctement, je fais attention aux mots, hein, correctement le voile islamique et qui en est morte. Dans notre second segment, Sophie Pagé-Sabourin, professeure en sciences politiques au Cégep de Sorel-Tracy et détentrice d'une maîtrise en politique autochtone, j'espère que c'est le bon titre, nous expliquera la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, dont c'est le deuxième anniversaire demain, officiellement, mais on la souligne aujourd'hui près de nous à Odanak. D'ailleurs, après l'émission, je vais vous faire un petit saut là-bas. Et on terminera l'émission avec le directeur général de développement économique Pierre de Sorel, David Place. Bienvenue à On a des choses à dire.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Développement économique Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site web. On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Pierre Mandeville et ses invités.
Rebonjour. Denis Marion en studio. Bonjour Denis.
Bonjour Pierre.
Et Martin Baller en ligne.
Bonjour à vous deux.
J'ai mis ta petite hésitation. Je dis, il est là. Oui, il est là. Martin, oui, on t'entend comme une tonne de briques aujourd'hui.
Bon, correct. Je parle moins fort, je parle plus fort.
Non, c'est correct. Ça, je vais m'en occuper. Il fait beau à Montréal, Martin, en direct de ton bureau de la Bibliothèque nationale?
Ben non, je suis en télétravail aujourd'hui, fait qu'il fait beau à Richelieu.
En pyjama dans son salon. Les pieds, ça bavette du poil, là. C'était ça? Hey, bon. Bien, merci. Merci d'être là, Martin. Écoute, Martin, je t'arrête. Pas je t'arrête, mais je t'accroche tout de suite une petite minute. T'as entendu l'intro, on va parler de la Journée nationale Vérité et réconciliation. Ouais. Et allez, quand tu étais au cabinet du ministre de l'Éducation, il y a 3 ans ou 4 ans environ, tu t'es occupé du collège Kiona à Odanak, je crois.
Oui, mais j'avais le dossier des étudiants autochtones.
Oui.
Donc, j'ai eu le plaisir là, d'aller rencontrer Mme Prudence Anis, là, directement à Kiona. On a rencontré tout le monde là-bas. On a fait le tour. Et c'est une institution incroyable qui regroupe beaucoup d'étudiants de partout à travers le Québec.
Mais ce sont des étudiants autochtones, Martin.
Oui.
Hein?
Okay. En plein ça. Okay. Mais c'est pas exclusivement réservé aux autochtones.
Ah, ça, je ne savais pas.
Les gens qui veulent, des jeunes là, qui voudraient aller vraiment apprendre la culture autochtone et s'immerger là, vraiment, là, ben ils pourraient aller là. Il n'y aurait pas de problème. Ils ont même des liens avec le cégep de Jonquière pour des cours de communication. En tout cas, c'est extraordinaire. Puis c'est des gens qui sont vraiment au service des étudiants. Même okay. Il y a beaucoup d'étudiantes autochtones qui arrivent là, sont enceintes ou ils ont déjà accouché. Ben, okay. Ils sont là avec leur famille.
Belle réussite.
Des aides, là.
Une belle réussite. Merci, Martin, pour cette petite parenthèse, parce que ça m'est revenu à l'idée tout à l'heure. Bon, Martin, Denis, On va mettre la table tout de suite, on va parler à l'international. Ça ne veut pas dire qu'on ne touchera pas un peu la politique à la fin de notre segment, mais...
Surtout cette semaine, ça achève la campagne.
Ah, mon Dieu, oui. On va parler d'immigration, ça va faire changement. Non, non, écoutez, au niveau de l'Ukraine, écoutez bien, plus sérieusement, je vous lance des chiffres. Pas une tonne, mais j'ai pris ça tout à l'heure, j'en parlais avec Denis en studio. Le conflit en Ukraine a fait plus de, autant de la côté de la Russie également, 30 000 morts. 54 000 blessés, 14 millions de personnes déplacées, plus de 140 000 bâtiments détruits et des dommages, accrochez-vous, qui atteignent minimalement 350 milliards de dollars. Alors, la table est mise. On va commencer avec Denis. Denis, conflit en Ukraine, il se passe quelque chose d'important aujourd'hui et demain.
Oui, hein? Tout à fait. Dans un premier temps, tous les chiffres que tu viens de donner, ça va les rendre encore plus dramatiques. C'est tout ça depuis le 24 février dernier.
Oui, ça fait 9 mois.
Ça fait pas 10 ans, là. C'est depuis le 24 février dernier. Kiev a été bombardé dès le lendemain, le 25. Cependant, les choses ne sont pas passées comme les Russes l'avaient prévu, comme Vladimir Poutine, le président russe, l'avait prévu. L'Ukraine a repoussé jusqu'à présent une partie des... et a libéré une partie des territoires, des territoires russes. Et on a vu comme réaction de la part de Vladimir Poutine deux actions. La première, le 21 septembre, une mobilisation. Il a annoncé une mobilisation de 300 000 Si vous regardez sur les médias internationaux, vous verrez peut-être des cartes du nombre de villes où il y a eu des manifestations contre la conscription. C'est assez impressionnant. Et ce matin, on annonçait qu'on était à peu près capable d'identifier 260 000 Russes. Là, je vous souligne, on est le 29 aujourd'hui. Là. Tout ça a commencé le 21 septembre.
Oui, en effet.
On est 8 jours plus tard et il y aurait au moins 260 000 jeunes Russes qui auraient quitté la Russie.
Oh! Non, ça, j'avais pas ce chiffre-là.
C'est énorme. Les gens sont allés... les gens vont vers la Finlande, vers certains pays d'Europe, mm-hmm. évidemment en passant par l'Europe de l'Est, et la Turquie. Et là, il y a des endroits où il y a des files de plus de 10 kilomètres aux frontières de voitures, de gens qui cherchent à quitter la Russie.
Martin, pendant que tu es en ligne, je m'excuse, Denis, on va revenir à toi dans quelques secondes. Martin, cette démobilisation, je vais l'appeler comme ça, est-ce que selon toi, la Russie peut perdre encore plus dans ce conflit-là?
Bien, je pense qu'ils peuvent pas perdre bien, bien plus qu'ils ont perdu là, au niveau international. Là. C'est vraiment la fin des relations avec les autres pays autour. La Géorgie là, est submergée par les gens qui quittent.
Exact.
C'est vraiment horrible et on voyait les reportages à la télévision des familles séparées. Il y en a d'autres qui, enfin, ils ont pu se retrouver à l'extérieur. Là. Ceux qui attendaient en ligne là, dans la fameuse ligne d'attente de voiture, ben, les gens peuvent ils ont invité les gens à se rendre à pied. Donc, à sortir de la voiture, ils se rendent à pied parce que l'armée s'en venait. C'est complètement fou. Oui. Et on voit ce régime de terreur. Et ce régime de terreur-là, là, ça fait des années que Poutine l'installe. Et la communauté internationale a vraiment pas réagi là, lorsqu'il a dit il a décrété qu'il était pour être président plus longtemps, là, quasiment à vie, tout ça. On voit que personne n'a réagi. Il y a tellement de parallèles à faire avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est complètement fou. Hein? Toutes ces personnes-là qui sont des dictateurs, ils agissent toujours de la même façon. Ils arrivent discrètement. Finalement, ben on voit quelle sorte de monstre que ça peut être.
Mais Denis a hoché de la tête quand tu as fait une
similitude. Oui, j'ai un petit peu de misère avec les comparaisons avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais
c'est quand même vrai, on n'a rien vu venir. Hein.
En fait, non, effectivement. En fait, il y a quand même eu des signaux. Là. Martin a raison quand il parle des moments où tout à coup... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Poutine alternait le poste avec Medvedev, il alternait la présidence puis le poste de premier ministre.
Medvedev qui était
préserver,
son premier ministre.
Exactement, ou le président.
Ou le président.
Selon l'époque, parce que à l'époque, il n'avait pas le droit d'avoir plus que deux mandats de suite, là, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Et donc, ils interchangeaient. Mais ça demeurait que c'était Vladimir Poutine qui était à la tête.
C'était ratoureux.
Oui. Non, oui.
Exactement. Et il y a eu, en 2014, il y a eu l'annexion de la Crimée. La Crimée qui est un territoire ukrainien aussi. Les Russes ont... Et c'est ça le deuxième élément depuis le 21, c'est la tenue de référendum dans quatre zones ukrainiennes où il y a une proportion de russophones et de gens qui s'identifient à la Russie et où il y a des milices armées par les Russes. pour justement créer des situations.
Quelle belle démocratie.
Et, oui, effectivement. Et en quelques jours, ils ont tenu des référendums. Et je vous donne, juste pour que vous puissiez voir, les résultats pour le oui sont quelque chose entre 87 et 99,77% oui, dans une des régions.
C'est bon, ça.
Ces référendums-là ne sont reconnus par absolument
personne.
Dans la communauté internationale. Mais le fait d'annexer ces quatre régions-là de l'Ukraine demain, qui correspondent à peu près à 15% du territoire de l'Ukraine, il y a à peu près 4 millions de personnes qui vivent là, c'est-à-dire peut-être autour de 10% de la population ukrainienne au complet, va faire en sorte que ces territoires-là, pour les Russes, seront dorénavant intégrés à la Russie. Donc, quand les Ukrainiens, si les Ukrainiens devaient chercher à intervenir dans ces territoires-là, les Russes pourront dire que cette fois, les Ukrainiens s'attaquent au territoire russe.
Et tout à l'heure, tu me disais qu'un pays, entre autres, qu'il faut surveiller est la Chine.
Exactement. Et là, la Chine a ce matin réagi. La Chine a déclaré ce matin que l'intégrité territoriale de tous les pays doit être respectée. Et ça, c'est quand même assez important que la Chine prenne le temps, j'allais dire. Vous savez, les Chinois, ils réfléchissent, ouais. Puis quand ils posent des gestes, c'est significatif.
Mais le président,
cette déclaration,
de l'Ukraine,
ça, ce matin, elle est là. D'autre part, donc demain, c'est déjà annoncé, demain au Kremlin, Vladimir Poutine va annoncer que va présenter la résolution qui sera présentée à la Douma, le Parlement russe, pour annexer ces territoires-là. Et c'est à partir de là que Poutine commence à parler de l'utilisation de l'arme nucléaire. Parce qu'il a dit que pour défendre le territoire national, pour défendre le territoire russe, il pourrait aller jusqu'à l'utilisation de l'arme nucléaire. Et là, bien évidemment, ça augmente d'un cran les craintes.
Il serait
les
assez...
Pour
le faire.
Et l'autre aspect qui est arrivé...
C'est l'escalade, c'est ça.
L'autre aspect qui est arrivé ce matin, puis ça, je pense que c'est très, très important, c'est que les États-Unis demandent à l'Inde et à la Chine qui, tous les deux, la semaine dernière, ont émis des réserves à Vladimir Poutine sur l'intervention en Ukraine. Les États-Unis demandent à l'Inde et à la Chine d'intervenir auprès de Vladimir Poutine pour le calmer, entre guillemets. Et ça, il y a deux aspects dans cette affaire-là. La première, c'est que les États-Unis ne sont plus capables seuls actuellement d'imposer quoi que ce soit. Donc ça, c'est important aussi sur la lecture qu'on fait de la possibilité qu'ont les États-Unis d'agir comme gendarme, entre guillemets, de la paix mondiale. Et le deuxième, c'est l'importance que l'Inde et que la Chine, en fait probablement plus la Chine et l'Inde, ont sur la scène internationale actuellement.
La Chine, qui est peut-être un peu plus rationnelle dans ce conflit-là, va sûrement chercher à modérer les actions. Parce que dès qu'on parle d'armes nucléaires, Denis, c'est bien beau, c'est le premier qui paye sur le piton, mais c'est l'escalade automatiquement.
Tout à fait. Et puis là, ben, évidemment, on s'entend. Là. Il n'y a pas eu de menace nucléaire réelle depuis le début des années 60. Donc, on ne sait pas trop exactement vers quoi on va aller là-dessus. Est-il sérieux ou pas?
Martin, tu penses-tu qu'il est sérieux? Vladimir, toi qui lui parles régulièrement.
Non, mais la problématique là, qu'il y a là-bas en partant, la communauté internationale, elle dit qu'ils ne font pas partie de l'OTAN, l'Ukraine, on ne peut pas intervenir, Mais à force de ne pas intervenir, oui, on fournit des armes, arrangez-vous là, pour vous démerder avec ce qu'on va vous donner. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu d'action réelle faite par les Américains.
Ils ne peuvent pas, Martin.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu...
On fournit les armes.
Il n'y a pas eu d'action directe, là, mais on parle de milliards de dollars en aide actuellement.
Milliards de dollars en aide, mais ça n'a pas arrêté Poutine. Ça ne va pas les arrêter.
Ben, peut-être, mais ça les a repoussés. Ça a repoussé les Russes.
Ça les a repoussés, mais eux autres voulaient aussi être repoussés parce que là, avec le référendum qu'ils font là, là, il essaie d'aller chercher une légitimité auprès des citoyens russes. Mais là, on voit que ça ne marche pas. Là. Les citoyens russes n'embarquent pas.
Je suis d'accord.
Ils s'en vont, ils débarquent. Et
ils
sont complètement largués par leur gouvernement et ils veulent quitter. Il y en a beaucoup qui ont...
Mais moi, je vais vous dire, Martin, le chiffre que Denis a sorti tantôt m'a fait tomber par terre.
En 8 jours.
260 000 jeunes.
Oui. Et on dit que c'est sous-évalué. Parce qu'évidemment, il n'y a personne dans les frontières qui compte chacun des individus. Là. L'impact de ce qui vient d'arriver au cours des 10 derniers jours, c'est que la guerre en Ukraine est devenue une réalité pour le peuple russe. Jusqu'ici...
C'est une réalité, puis on voit même les soldats, j'ai entendu des soldats dire qu'eux autres ne voulaient pas embarquer là-dedans, Il y en a qui ont fui, il y en a qui ont
déserté. Effectivement. Oui.
Là-bas, là, c'est vraiment la mort. Là.
Il y a une prise de conscience de la population russe de la réalité du conflit en Ukraine. Je vais utiliser le mot propagande, là, mais c'est évidemment la propagande russe actuelle auprès de la population russe ne vise pas à présenter les choses comme elles sont. Là. On n'est pas à Radio-Canada.
Mais
là,
je reviens avec ma question. Est-ce que c'est assez pour déstabiliser Vladimir Poutine? Non, mais est-ce que le peuple ou le gouvernement, ben il maîtrise quand même le gouvernement, mais peux-tu avoir une sorte de dire à un moment donné,
mais il maîtrise stop, là? Pierre, il maîtrise la police aussi. Il maîtrise la police, il maîtrise l'armée. Tu sais, vous l'avez vu, là, les manifestations sont pour le moins encadrées par les autorités, les forces policières.
Disons que les droits et la CNSST n'ont pas d'affaires là-dedans.
Non, vous avez vu là des grands, grands opposants qui, par hasard, tombent par les fenêtres d'édifices des étages.
Et comme par hasard, disparaissent aussi des voies.
Exactement. Là, écoutez, là,
Une révolte à grande échelle est-elle possible en Russie?
Ben, je ne sais pas s'il y a un pays qui nous a démontré que les révoltes à grande échelle sont possibles. C'est bien la Russie en 1917, là. Mais
Je faisais un peu allusion à cette révolte-là, mais à un moment donné, le peuple peut-il... Ben oui, il l'a fait. Il l'a fait en 1917. Il peut se révolter de dire
ça suffit. La seule chose qui va arrêter Poutine, c'est sa propre mort. Seule chose qui va l'arrêter. Des tyrans comme ça, c'est la seule façon de les arrêter. Et lui, il va continuer jusqu'à temps que ça pète. Il va continuer jusqu'à temps qu'il
l'ait. Je suis obligé d'avouer que c'est rationnel, mais c'est radical, mais c'est ça.
Il faut quand même faire attention, parce que Poutine est évidemment un dictateur, là, clairement. Martin, tu l'as dit tout à l'heure. Cependant, il représente des intérêts. Il représente des intérêts importants, puis des intérêts de milliardaires, de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent en jeu.
Mais il y en a quelques-uns qui l'ont largué, Denis.
Oui,
là.
Tout à fait, exactement.
Les milliardaires russes, là. Exactement. Les oligarques qui ont dit à un moment donné...
Peut-être que ces gens-là qui ont des intérêts personnels très grands dans la situation vont peut-être avoir plus d'influence que les gens dans la rue. Et faut peut-être pas négliger
je m'enligne plus vers... Parce qu'à un moment donné, en 1917, c'était pas la condition économique comme aujourd'hui. Tu coupes les sous, à un moment donné, les très riches, ils la trouvent pas drôle, sûrement.
Non, puis quand on analyse 1917, il y avait pas tant de gens d'impliqués dans les... Non, c'est pas des grosses manifestations,
non,
là.
Non, c'est ça.
Mais Poutine, c'est un homme qui est one-track mind. C'est sa seule idée à lui, c'est la meilleure. Il va avancer là-dedans et il a fait éliminer même des gens d'affaires. Il a vraiment, il est terrible. Puis il agit un peu partout dans le monde. Ici, à Montréal, là, on a même un conseiller municipal, M. Sarsville, qui va se présenter tous les jours devant l'ambassade russe. Que je comprends pas pourquoi le Canada n'a pas demandé de fermer cette ambassade-là puis de dire aux gens qui travaillent là de repartir dans leur pays.
Moi, je pense que c'est un jeu assez compliqué. C'est sincèrement.
Un jeu compliqué, mais à quelque part, c'est des espions qui demeurent chez nous.
Oui.
Et l'Amérique du Nord pour continuer à faire leur propagande. Ouais. Et ces gens-là ont commencé à s'attaquer à M. Sarsville et aux gens qui vont là avec des. Sont complètement fous. Là. Donc, la police ne peut rien faire parce que c'est le cadre.
Mais Martin, les pays démocratiques, là, ils insistent à travailler dans le cadre des diplomatiques.
C'est très, très
et donc, le Canada ne peut pas simplement fermer le consulat ou l'ambassade à Ottawa, le consulat à Montréal ou l'ambassade à Ottawa.
Nous, le Canada, même notre premier ministre du Québec, Poutine les a mis sur la blague.
Oui, ça. Pour conclure, monsieur, je pense pas que M. Legault, ça l'a empêché de dormir, de ne pas aller en Russie, par exemple.
Non, je pense pas.
Je suis barré, moi aussi, avec mon émission. Hein, vous savez, Vladimir annonce officiellement que l'animateur dont on a des choses à dire n'a pas le droit d'y aller. Vous voyez l'importance que je me donne. OK, les gars, je vous arrête parce que là, ce serait très malveillant d'aborder la crise en Iran à peine 30 secondes. Fait que Martin va falloir se reprendre la semaine prochaine. Mais il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on parle un peu de la politique, un peu.
La campagne électorale.
La campagne électorale. Et surtout, oui, hier, l'histoire sur l'immigration. C'est une entrevue d'ailleurs avec le ministre du Travail, et de l'Immigration, Jean Boulet. C'est une déclaration qu'il a faite il y a une semaine dans un
débat local,
Un débat local à Trois-Rivières, si je ne m'abuse. Écoutez, ça se peut. Et il y a eu. Je l'ai réécouté. Écoutez, c'était. De la part de Jean Boulet, que j'ai connu un peu, et Martin, toi aussi, ça m'a énormément surpris.
C'est surprenant, mais souvent, les politiciens pensent qu'ils font un débat local que ne pas sortir au national. Ça, c'est ce qu'ils pensent souvent. Et là, actuellement, nous, on appelait ça, en fait, au fédéral, c'était des budgets plus élevés, là. On appelait ça, nous autres, l'erreur à 1 million de dollars, là, qui fait déraper la journée. Là, tout le plan de la journée de M. Legault a été complètement mis de côté. Ils ont eu à vivre cette crise-là. Et j'ai l'impression que M. Legault a vraiment hâte que la campagne se termine.
Mais M. Legault, Martin, il avait mis le pied dans l'étrier avant même... En fait, le fait d'aller chercher l'extrait de Jean Boulet venait ajouter à la déclaration que M. Legault avait faite sur le fait que accueillir plus d'immigrants était suicidaire, l'utilisation
oui, à la Chambre de commerce de Montréal.
Suicidaire. Donc, là, en fait, c'était une façon, je pense, de bien montrer qu'il y avait un enjeu de ce côté-là. Là. Et je pense que M. Legault, actuellement, il voit qu'il descend dans les sondages à toutes les semaines.
Il doit la trouver énormément longue cette semaine.
Oui, mais sauf que c'est assez impressionnant là, de voir qu'il y a des chances, mais peut-être que ça ne se concrétisera pas. Là, hein, on ne le sait pas.
Tu es en train de partir comme Rénal Bergeron, toi-là, qui vaut le Parti conservateur régulier.
Non, pas du tout. Moi, ce que je vois, par contre, comme risque pour M. Legault actuellement, c'est qu'il ait moins d'appui qu'en 2018.
Oui,
c'est ça. En 2018, ils ont eu 38% des voix. Et il serait possible qu'on soit en bas de 2018. Et moi, je pense que M. Legault prendrait ça vraiment très personnellement.
Mais Martin, tu es d'accord avec moi que c'est pas de... Et c'est de loin la plus mauvaise campagne de François Legault, là.
Ben, moi, je pense que M. Legault aurait pu la prendre vraiment plus relax, là. Faire une campagne...
Oh, mon Dieu,
oui. Comme a déjà fait M.
Stressant.
Là, que c'était sans odeur ni couleur, là.
Stressant.
Tellement, il avait vogué sur ses sondages, puis ça avait très bien été. Tandis que là, moi, je l'avais dit en début de campagne, le plus grand adversaire de M. Legault actuellement, puis de la CAQ, c'est M. Legault et la CAQ. C'est vraiment eux autres. Les autres candidats se battent entre eux pour savoir qui va être le premier, deuxième.
Mais en terminant, Martin, excuse-moi, le temps file, il nous reste 30 secondes. En terminant, Martin et Denis, ensuite, en peine 10 secondes, est-ce que c'est parce qu'il est vraiment fatigué? Et on soumet ces hypothèses-là. Il sort fatigué de toute cette histoire de pandémie. Qu'est-ce que tu en penses, Martin, 10 secondes?
Ben moi, je pense qu'il est fatigué, mais il aurait pu employer une autre stratégie qui lui aurait permis de conserver un peu plus ses énergies. Et puis, parce que là, la pause après les élections, je pense qu'elle va se prolonger. Parce qu'actuellement, lui, il faut qu'elle finisse la campagne. Tandis qu'on regarde Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il aurait espéré une semaine ou deux de plus.
Ce qui va être très intéressant, c'est les 6 premiers mois du prochain mandat. Parce que si la CAQ devait avoir moins de votes qu'en 2018, ils n'auront pas beaucoup de temps avant que la société civile se mette sur le dos du gouvernement actuel compte tenu du fractionnement des oppositions.
Martin Baller, Denis, on se rejoint après. Toi, Martin, je te souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine. On s'en fait une autre.
À la prochaine.
Salut, Martin. Bye-bye. On se rejoint tout de suite après la pause.
Lorsque l'on parle de droit en matière de santé et de services sociaux, le Comité des usagers de Pierre de Sorel veille sur nous. Sa mission, nous renseigner quant à nos droits et nos obligations tout en défendant nos intérêts. Saviez-vous que pour susciter notre confiance face au système de santé, la loi prévoit 12 droits tels que le droit à l'information, au service, au choix de notre professionnel ou de notre établissement, ou encore de recevoir les soins que requiert notre État? Le Comité des usagers de Pierre de Sorel nous permet d'exprimer nos insatisfactions et même de porter plainte. Pour plus d'informations, composez le 450-746-6008.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Développement économique, Pierre de Sorel travaille à la création d'emplois durables dans la région en soutenant et stimulant l'entrepreneuriat. Son mandat repose sur une vision large du développement, c'est-à-dire offrir des services de première ligne aux entrepreneurs de son territoire, ainsi qu'assurer la croissance des entreprises. Développement économique, Pierre de Sorel fait connaître les projets d'affaires et travaille en étroite collaboration avec les partenaires du milieu afin de mettre en place des conditions favorables au développement de la région. Faites-nous part de vos projets d'affaires sur notre site Web.
Jusqu'au 2 novembre, place à la promotion des économies bien mijotées chez Meubles André Beaulieu. Économisez 300 $ additionnels à l'achat de 3 électroménagers admissibles KitchenAid. Économisez 400 $ additionnels à l'achat de 4 électroménagers admissibles KitchenAid. Et économisez 500 $ additionnels à l'achat de 5 électroménagers admissibles KitchenAid. Rendez-vous chez Meubles André Beaulieu pour obtenir plus de détails. Livraison gratuite dans un rayon de 250 km autour de Sorel-Tracy. Pour en savoir plus, passez en magasin ou visitez lemeublebeaulieu.ca.
On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101.7, on a des choses à dire. De retour à Pierre Mandeville et ses invités.
Toujours en compagnie de Denis Marion, j'accueille Sophie Pagé-Sabourin au téléphone. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et ça va, entre deux cours au cégep, c'est le fun que tu aies pris le temps de nous jaser ça, Sophie.
Ben oui, ça me fait plaisir.
Très, très gentil.
Bonjour Sophie.
Bonjour.
Oui, écoute, Sophie, ce sera, il faut que je le dise, quand j'ai pensé à Sophie, on parle de questions autochtones, et j'ai pensé à toi, Sophie, parce que tu m'avais dit, est-ce que tantôt, je sais pas si non, tu n'as pas pogné le début de l'émission, hein, j'ai dit que tu avais une maîtrise en politique autochtone. Non, hein, c'est un petit peu plus pointu que ça, hein?
Ben, en fait, c'est une maîtrise en sciences politiques, mais je les ai faites sur les enjeux autochtones.
Oh, je t'ai pas loin.
En études autochtones.
Tu me le pardonnes? Écoute, Sophie, pour mettre la table un peu, comme je disais tout à l'heure, c'est demain officiellement la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est la deuxième fois que ça se produit. Sophie, est-ce que j'ai raison de dire que tout a commencé justement avec le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette?
Je pense que ça remonte à plus loin que ça, sensibilité-là. Par rapport aux survivants des pensionnats, je dirais en fait que c'est pas... Évidemment, là, il faut souligner, commémorer le décès de Joyce Echaquan, ça faisait 2 ans hier. Mais en fait, pourquoi il y a cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation, c'est qu'on a trouvé des dizaines et des centaines des dépouilles d'enfants proches des pensionnats, entre autres à Kamloops.
Sophie, c'est pas une question au piège, mais est-ce qu'on a trouvé des sépultures au Québec?
Il va y avoir des fouilles à Sissassibi prochainement. Là, le ministre a annoncé, dans le fond, ces fouilles-là cet automne.
C'est à quel endroit, ça, Sophie?
Sissassibi, c'est une communauté Cree. C'est la communauté la plus au nord
du Québec.
Du Québec pour la Baie-de-Saint-Denis.
OK.
Donc, j'imagine pour que le gouvernement débloque des fonds, c'est qu'ils s'attendent à trouver, en fait, des...
Oh là là. OK. Denis, est-ce que tu as une question pour Sophie? Ou...
Sophie, est-ce que tu constates pas comme moi que les dossiers autochtones, c'est-à-dire l'appropriation par la population en général de la situation des Autochtones s'est beaucoup améliorée et a pris de la vitesse là, au cours des dernières années? Ce dont moi je me souviens plus jeune, c'est... vraiment une méconnaissance absolue de la réalité de nos nations autochtones. On a vu à travers les années des dossiers politiques évoluer, là, des ententes, etc., mais il me semble que je pense entre autres aux plus jeunes, t'enseignes au cégep, je sais pas si tu le constates aussi, là, mais des plus jeunes autour de moi, ils sont très sensibles à ce qui s'est passé là, particulièrement depuis la dernière année avec l'histoire des pensionnats. Est-ce que c'est pas nouveau?
Oui, je pense qu'il y a, dans les dernières années, là, il y a un réveil par rapport aux enjeux autochtones. Juste le certificat que j'ai fait, là, c'est très récent. Hein. Un certificat en études autochtones, avant, c'était beaucoup trop pointu pour qu'on l'ouvre. Là. Donc oui, il y a un intérêt envers la population et on répond à cet intérêt-là. Et c'est super important, là. Il y a beaucoup de chemin qui reste à faire. Mais oui, les peuples autochtones s'affirment de plus en plus, donc sont de plus en plus visibles. Et revendiquent aussi certains droits liés à ça.
Sophie, une question très, très technique. Demain est la date officielle de la deuxième Journée nationale de la vérité de la réconciliation. Aujourd'hui, à Odonak, ils le font aujourd'hui. Mais tu m'as dit que c'est hier que tout a commencé, il y a 2 ans.
Hier, c'est le décès de Joyce Echaquan.
Désolé, merci. Non, mais c'est bien de le voir parce que...
C'est une journée fériée, demain uniquement au fédéral. Hein.
Oui, c'est pour ça que je suis ici.
au provincial, François Legault, le chef de la CAQ, qui est encore maintenant, a refusé de donner cette journée-là comme un férié en disant que ça allait nuire à la productivité et ne reconnaît toujours pas le racisme systémique.
Tu grimaces, Sophie.
C'est un débat ouais. dans la société québécoise en général, là, dans la question. D'abord, pour commencer, peut-être, ça serait peut-être intéressant, Sophie, tu sais, qu'est-ce que c'est le racisme systémique? Parce qu'on en parle beaucoup, puis c'est comme si, pour beaucoup de gens, reconnaître le racisme systémique, ce serait de reconnaître une certaine culpabilité générale. On entend ça dans les propos du premier ministre. De quoi on parle réellement quand on utilise les termes racisme systémique?
Le racisme systémique, c'est de comprendre que dans le système, dans les institutions de l'État, il y a encore maintenant du racisme. On ne dit pas systémique dans le sens que toutes les personnes individuellement sont racistes. On dit que dans le système, il y a encore des discriminations envers les peuples autochtones. Par exemple, la loi sur les Indiens, elle est encore aujourd'hui.
Oh là là, oui. Ça fait longtemps.
Donc,
hein?
Il y a encore la fameuse statue de l'Indien qui détermine certains droits en fonction d'un quantum sanguin. Ça, c'est une loi qui existe encore où les personnes ne peuvent pas s'identifier par elles-mêmes comme faisant partie d'une nation autochtone.
Et c'est une loi fédérale. C'était une loi du 19e siècle.
Oui, c'est la loi sur les Indiens.
C'est la loi sur les Indiens. C'est ça, c'est une loi du 19e siècle dans une époque où déjà, on s'entend, là, c'était pas évident, là, la façon dont nos gouvernements, à ce moment-là, en particulier, avaient des relations avec les nations autochtones. Là.
Oui. Puis il y a eu la commission Vien de façon beaucoup plus récente au Québec où on a regardé vraiment les discriminations que vivent les peuples autochtones au sein de nos institutions publiques au Québec spécifiquement. Donc, c'était après une enquête, une émission d'enquête de Radio-Canada sur les abus policiers envers les femmes autochtones.
Oui, je me souviens de cette triste réalité.
Il y a ça encore. C'est pas juste au Canada, on le vit au Québec aussi. Ma meilleure amie est infirmière dans une communauté CRI. Elle nous dit: on n'aime pas transférer nos patients à Sibukamau. On sait qu'ils vont vivre des discriminations. On a de nos patients qui refusent des traitements pour ne pas avoir à aller à Sibukamau.
Et Sophie, quand on dit que le premier ministre Legault, entre autres en parlant de relativement au décès de Joyce Echaquan, que la situation, bon, il disait qu'il n'y avait pas de problème au débat, là, qu'il n'y en avait plus, mais que c'est amélioré. Est-ce que, selon toi, c'est quand même réel que la situation s'est améliorée?
Je ne sais pas, je ne suis pas sur le terrain. Je pense qu'il y a des efforts qui sont mis en place.
Okay.
Et ça porte fruit. Maintenant, uniquement 2 ans après, j'en doute, ça fait des siècles de méfiance envers les peuples que les peuples autochtones entretiennent envers l'État. Hein, les pensionnats sont un des symboles de pourquoi les Autochtones ne font plus confiance en l'État. Donc, ça va être très, très long à rétablir et à la fameuse réconciliation, là, elle va prendre encore des décennies. Là. Donc, 2 ans après, je conclurai que oui, il y a des efforts qui sont mis en place. Les résultats vont probablement être...
Mais Sophie, je vais te donner un scoop à toi aussi, Denis. J'ai rejoint une amie qui est infirmière à Joliette, à l'hôpital de Joliette. Naturellement, je ne peux pas donner son nom. Elle m'a dit que que ça s'est amélioré, mais beaucoup de ses collègues, ça s'est amélioré à cause de la force. Autrement dit, si vous traitez telle personne de telle façon, vous allez être sévèrement blâmé. Alors, il y a des gens qui sont tout autant racistes, etc., mais qui ont peur. Comment je pourrais m'exprimer? C'est comme si ce n'est pas naturel. Okay? On les oblige à avoir un bon comportement. Mais au fond d'eux, ils ont encore...
Mais
beaucoup, beaucoup
attention, Pierre, parce qu'on ne sait pas de combien de personnes on parle.
C'est pour ça que je te dis.
C'est évident. À mon point de vue, c'est évident. On le voit dans plusieurs expressions. Là, il y a du racisme de façon importante
oui,
dans,
oui.
Dans, dans, dans la population en général. Donc, ça, ça doit se reproduire également dans
mais
les institutions.
Mais je suis d'accord avec toi, et je pense, Sophie, aussi, ce n'est pas la grande majorité. Elle dit que quelques collègues qui avaient tendance à faire ça, parce que ce n'est pas la majorité, effectivement, disaient qu'ils ne le font plus parce qu'ils vont être sévèrement blâmés. Mais c'est un début.
Il y a un petit aspect positif à tout ça, je pense, c'est l'augmentation de l'importance qu'on accorde à ces questions-là dans la société québécoise.
Je trouve ça magnifique, vraiment.
Il n'y a rien de réglé, là. Sophie a raison, là. Sophie te dit que ça va prendre des années. Il y a derrière nous une histoire de plusieurs...
Des
siècles, exactement, exactement. Et donc, il n'y a rien de réglé dans ça, mais on peut quand même constater qu'il y a une augmentation de...
La sensibilité,
exactement.
Et qui était très importante et qui était temps qu'il arrive, d'ailleurs.
Oui. Puis c'est drôle parce que, quelque part, parfois, on réalise que des gens près de nous ont des racines autochtones ou sont des autochtones eux-mêmes et on ne le sait pas nécessairement.
Du côté de mon arrière-grand-mère.
Ah, moi aussi. Du côté de mon arrière-grand-mère aussi, Innu de la Côte-Nord. Oui, Innu de la Côte-Nord. C'est pas à des gens comme moi je fais référence. Je parle des autochtones qui sont, par exemple, des gens de Danak ou, tu sais, Danak n'est pas loin de Sorel-Tracy.
Je m'en allais t'en parler et en parler à Sophie. Plus près de nous, justement, au Danak, la nation Abénaki, pardonnez-moi, commémore aujourd'hui cette journée. Eux, c'est aujourd'hui. Je vais d'ailleurs aller faire un petit saut après l'émission. Je vais rencontrer M. Daniel Génolet, qui est le directeur général. Sophie, concernant la nation Abénaki, au Danak, qui, je crois, se distingue entre autres avec l'Institut Kiona, dont Martin Barleur nous en a parlé, et la nomination récente de Michel Aubame-Sawin au poste de juge à la Cour suprême du Canada.
Oui, l'Institut Kiona, là, c'est vraiment une merveilleuse institution qui permet en fait à des jeunes d'aller avoir une éducation postsecondaire. Donc, ils ont les mêmes DEC, les mêmes diplômes d'études collégiales que, par exemple, au cégep de Sorel-Tracy, mais le curriculum est adapté à leur réalité et à leurs intérêts. Et ça leur donne les mêmes opportunités après à l'université.
Magnifique.
Des résidences autochtones pour ces instituts-là qui répondent à leurs besoins et à leurs réalités différentes. Par exemple, ils ont des enfants beaucoup plus jeunes. Donc, par exemple, des résidences des trois aînés, ça ne fonctionne pas. Puis, c'est beaucoup plus sécuritaire culturellement d'aller dans une autre communauté. Là. Il y a des gens qui viennent presque des États-Unis, hein, des autochtones qui vont à Kiona.
Ah oui. Bien, Martin Barleur nous disait que c'était pas exclusivement aux Autochtones. Je pense qu'en grande majorité, ce sont des Autochtones, par contre.
C'est ouvert à tout le monde.
Oui.
Ça fait combien d'années que c'est créé? Est-ce que vous le savez?
Vous me posez une bonne colle. Là.
Oui, hein?
C'est autour des années 2011.
À peu près, hein?
Donc, ça aurait une dizaine d'années, mettons, autour de...
Okay.
Oui.
Mais tu sais, Sophie, on s'en parlait au téléphone en pré-réalisation cette semaine, pré-émission. Je disais qu'au Danak, pour moi, et la génération de Denis aussi, on était à peu près de la même. Il est plus jeune que moi, Denis. Toi, Sophie, non, t'as pas connu ça. Quand on était jeune, au Danak, puis encore aujourd'hui d'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets ça au passé, c'est une communauté qui... t'allais à Pierreville, t'allais au Danak. Moi, j'allais à Miss de minuit au Danak. J'allais au Powwow l'été. C'est une... Je cherche les bons mots. C'est une communauté qui s'intègre magnifiquement bien avec les gens autour et les gens de Pierreville. Ce n'est pas une nation conflictuelle. Comment tu pourrais catégoriser ça, Sophie, ce que je viens de dire?
Bien, je pense que la majorité, la très, très grande majorité des nations autochtones sont du même type, là, dans le sens qu'ils sont accueillants et ouverts. Il y a beaucoup de liens sociaux aussi entre les différentes communautés. Quand tu es en milieu urbain, tu n'as pas le choix, hein,
effectivement.
D'entretenir des liens avec ton voisin.
Oui, mais c'est sûr que les gens de Montréal sont un peu loin, mais nous aussi, tu parles des gens de Sorel, d'Odanak. Sais-tu ce qui a malheureusement teinté un peu les choses, Sophie, puis il nous reste à peu près une minute? C'est le fameux conflit autochtone que moi j'ai vécu, j'étais à Québec, c'était abominable, mais enfin, bref, on ne s'embarque pas là-dedans.
Non, on s'embarque
mais
pas.
Mais tout ça pour dire, Sophie, effectivement, puis Denis Marion, je pense qu'il va être d'accord avec moi, qu'aujourd'hui, c'est à Odanak, tout le monde est invité. Comme je le disais, je vais aller faire un petit tour tantôt. Il y a différentes activités. C'est organisé par le Centre d'action communautaire du lac Saint-Pierre. Alors, si vous tapez ça, vous allez avoir le déroulement de la journée. Il y a des chansons, il y a des poèmes, il y a des conférences. C'est vraiment très, très intéressant, puis une magnifique journée. Sophie, je te remercie énormément. Je te souhaite merci encore une fois de nous avoir parlé entre deux cours. Est-ce que tu as ton sandwich, ton café, puis ton iPhone de l'autre? Non.
Mon cabaret de cafétéria m'attend beaucoup.
Oh là là. Ben, OK, Sophie, un bon appétit.
Merci. Merci beaucoup.
Prends soin de toi. Merci beaucoup. Hey, Denis, on se revoit après la pause avec le directeur général de développement économique, Pierre de Sorel, David Place.
C'est effrayant. Ça fait des semaines que j'essaie de savoir ce qui m'arrive et personne ne veut me répondre. C'est-tu normal?
Non. La Loi de la santé et des services sociaux vous donne des droits. Pour en savoir plus sur les droits des usagers ou déposer une plainte à la commissaire aux plaintes et à la qualité des services, contactez le comité des usagers Pierre de Sorel au 746-6008, poste 8209 ou écrivez-nous au info@usagerpds.ca.
Sylvain Rochon, la campagne électorale québécoise comporte son lot d'enjeux locaux. Syntonisez CJSO 101,7 pour entendre les propositions des candidates et des candidats dans Richelieu et les circonscriptions voisines. Suivez nos bulletins de nouvelles et nos émissions d'affaires publiques, La Tribune, et on a des choses à dire. Écoutez nos analyses et donnez votre propre point de vue sur nos différentes plateformes. La campagne électorale québécoise dans la région, on la suit sur CJSO 101,7.
On a des choses à dire. Une présentation du comité des usagers Pierre de Sorel, de développement économique Pierre de Sorel, de Lucier, de Meubles André Beaulieu et du magazine Contact Affaires. À CJSO 101,7, on a des choses à dire. De retour à Pierre Mandeville et ses invités.
Nous voici. J'ouvrai le micro de David Place. Bonjour, David.
Bonjour, messieurs.
On s'appelle par nos prénoms ici. Ça fait votre affaire? Je peux vous appeler monsieur le directeur général?
Non.
Monsieur David?
Nos prénoms. Ça me convient parfaitement.
Excellent. Donc, David Place, vous êtes directeur général de développement économique Pierre de Sorel.
Oui.
C'est quand même tout nouveau. Ça fait pas très, très longtemps, vous.
Depuis la fin mai de cette année que j'ai commencé le poste. Puis, rapidement, on a sauté dans le bain, puis on a rencontré les gens du milieu, puis on a mis des choses en place. Puis nous voilà aujourd'hui dans une situation
en prémisse.
Est-ce que je peux vous nous arrivez d'où comme ça, quand, en arrivant au mois de mai, vous étiez où avant, vous faisiez quoi avant?
Ben oui, je peux faire un petit résumé rapide, 10 ans en hydroélectricité, en approvisionnement. Un séjour ici chez Alstom Power dans la région, en sortant du cégep comme jeune stagiaire, hein, comme tout bon jeune, on reste dans la région puis on commence. J'ai eu un long séjour chez Voith Hydro du côté de Brossard, voyage à l'international pour suivre les fameux projets hydroélectriques, aux approvisionnements. Après ça, je suis allé pour une compagnie qui s'appelle Lumen, qui est un groupe mondial. J'ai été 4 ans ici directeur du territoire de la succursale de Sorel-Tracy, donc Rio Tinto, ArcelorMittal, des clients majeurs en automation. Mm. Je fais partie du comité de fournisseurs qui a équipé la nouvelle fromagerie Bell. Donc, dans les 6 dernières années, c'était beaucoup l'automatisation, l'innovation, mon créneau, mon champ d'action.
Et associé à des entreprises d'ici, là?
Oui, absolument. Mon dernier séjour, c'était chez Lumen du côté de Longueuil, mais encore là, c'était de négocier avec Molson, des grosses compagnies majeures. Et il y a une approche qui s'est faite ici avec le préfet de la MRC, le comité là, qui préparait les entrevues, tout ça, et me voilà depuis ce moment-là.
Monsieur Place, est-ce que ça va bien à Sorel?
Oui.
Moi, c'est une maudite question en commençant, ça.
Oui, mais il y a quand même beaucoup de positifs. Il y a un chiffre qui parle beaucoup, puis que moi, ça s'en va dans le coffre d'outils. Notre démographie est en augmentation.
Oui.
La pandémie nous a aidés. Tu sais, l'exode des gens de Montréal, on en a récupéré ici. Si vous permettez, j'avais une discussion ce matin, on va lancer une ligue de hockey scolaire, mais les noms sur la liste, c'est des nouveaux arrivants de d'autres pays, tout ça. C'est des jeunes qu'on va initier au hockey qui vont toucher à des glaces pour la première fois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des nouveaux arrivants. Ça, c'est bon.
Nouveaux arrivants, vous parlez de l'immigration. Est-ce qu'on a une population particulière? Est-ce que ce sont comme des Ukrainiens ou d'autres?
Je dirais qu'on a toutes les populations. Il y a des entreprises locales ici aussi qui ont fait leur propre démarche d'intégrer des travailleurs. Je ne veux pas tous les nommer pour ne pas nous oublier, mais je pense à un Racier Richelieu, entre autres, là, qui a amené des travailleurs étrangers. Pour l'Ukraine, on a fait des choses spécifiques. Et si vous vous rappelez, en juin, il y a une conférence de presse où est-ce qu'on a eu 1,8 million des gouvernements pour le chantier d'attraction de la main-d'œuvre, qui lui nous aide beaucoup. Là.
Et qui est une action complémentaire à ce que vous, vous faites directement à développement économique, Pierre de Sorel.
Absolument. T'sais, si vous me permettez un scénario qu'on fait venir ici, une entreprise internationale de 800 travailleurs, il faut les trouver, ces 800 travailleurs-là. Donc, c'est là que oui, ça devient des outils intéressants pour moi.
J'aurais justement, je vous allais directement dans un sujet qui me préoccupe beaucoup. Évidemment, la région est très, très impactée par la pénurie de main-d'œuvre.
Oui.
le chantier d'attraction à main-d'œuvre vise entre autres à répondre à ça. Là. Puis là, je reviens très, très rapidement sur le chantier. C'est une multitude de partenaires là, qui sont. C'est pas un groupe, là. C'est tout le monde de la région qui essaie de se mobiliser pour non seulement les attirer, mais les garder. Vous voyez ça comment la réponse à la pénurie de main-d'œuvre? Parce que la pénurie de main-d'œuvre, elle est partout en Montérégie, elle est partout au Québec, mais chez nous particulièrement, surtout quand vous parlez d'arrivée de nouvelles entreprises. Je pense qu'on pourrait parler de Bell, par exemple, l'impact que ça peut avoir sur Bell. Vous voyez ça comment, vous, la réponse à la pénurie de main-d'œuvre?
Bon, si on repart du début de l'énoncé ou de la question.
La longue question, il faut que j'apprenne.
Oui, mais c'est ça, il faut j'apprenne. Non, mais moi, j'étais même perdu à un moment donné, Denis. David en a vu d'autres, là, je pense. Là.
Non, si on y va au début avec le chantier d'attraction de la main-d'œuvre, c'est évidemment tous les partenaires du milieu qui sont impliqués. Puis je suis content de passer après le dîner du préfet qui a eu lieu hier midi parce que Sylvain Dupuis l'a très bien expliqué. Le but, c'est d'intégrer une famille complète. C'est que papa ait un travail, la maman, que les enfants soient impliqués dans le milieu sportif, communautaire, qu'il y ait des activités. Fait que le but, c'est d'amener une famille, puis on les a, ces opportunités-là. Faut pas oublier quelque chose de positif à Sorel Tracy. Notre plus grand atout devient la proximité géographique de Montréal. Je veux dire, tu sais, quelqu'un d'une famille qui s'implante ici.
Le désavantage de l'avantage.
Exactement. Mm-hmm. Une famille qui s'implante ici peut aller voir son spectacle au Centre Bell aller-retour, puis il n'y en aura pas de problème. Fait que ça devient un avantage. Donc, oui, on ramène des gens. Est-ce que j'ai bien répondu à la question, Denis?
Mais non, c'est bon, parce que vous évoquez le fait que c'est dans tous les aspects de la vie qu'il faut accueillir ces gens-là.
Oui,
je trouve ça le fun que vous avez parlé de votre ligue de hockey. Là. Je trouve que c'est exactement ce qu'on doit faire. Il faut qu'on soit capable, dans tous les aspects de la vie des gens, de faire en sorte qu'ils aient envie de rester avec
nous. Est-ce que, M. Place, est-ce que c'est la majorité présentement que c'est la famille au complet?
Je n'ai pas ces réponses.
Non, mais je posais la question comme ça.
La chargée de projet du chantier a été nommée récemment. Okay. Je pense que ça serait une bonne occasion de la rencontrer.
Non, mais c'est une excellente idée, effectivement, d'accueillir la famille au complet. Justement, ça crée le noyau.
C'est toute la position qui a été développée par le chantier. Là. Le chantier en question, le 1 800 000 qui a été annoncé, comme dit David Place, au printemps, c'est 2 ans et demi de travail, si je ne me trompe pas, là, pour se rendre là avec l'ensemble des intervenants qui ont travaillé fort pour qu'on ait une réponse réfléchie puis intégrée là, dans la région.
Oui.
Que ce soit pas des coups d'épée dans l'eau, mais que ce soit une vraie action qui puisse. Parce qu'avec 1,8 million, là, on commence à parler sérieux. Là.
Oui, oui, on a les fonds nécessaires pour manœuvrer un peu. Mais je reprends ta question. Qu'est-ce qu'on fait le temps que ces gens-là arrivent? Est-ce qu'on laisse aller nos entreprises puis on attend? La réponse, c'est non. On va lancer bientôt, très, très bientôt, un programme qui va s'appeler Entreprises innovantes. Nos entreprises existantes souffrent, manquent de personnel, mais il y a des réponses à ça. Ça s'appelle l'innovation. On va aller en entreprise, on va faire des audits, on s'est affilié avec les ingénieurs d'Investissement Québec. Ces gens-là, on va pouvoir les financer. On va pouvoir faire en business, on appelle ça un mapping, des opérations complètes d'une entreprise. Puis, est-ce qu'on robotise le secteur A, on automatise le secteur B, on y va avec un changement de ERP? Est-ce qu'on fait
de quoi, Monsieur Plage, partez-moi pas avec le ERP, vous, là. C'est quoi le ERP, là? Moi, je vais vous dire, là, novice là-dedans. Là.
OK.
Il y a la voie des questions terre à terre un peu, là. ERP.
On va parler pour les novices. Qu'est-ce que ça fait, un ERP? C'est que ça permet aux entreprises d'ici de devenir internationales, d'importer, d'exporter.
Okay.
En gros, si je suis assis dans une entreprise aujourd'hui que je veux m'approvisionner à l'international, il y a moyen que mon PO, ma commande d'achat, s'envoie électroniquement directement chez le fournisseur qui est à l'étranger et la facturation et les paiements et vice-versa. Mais ça se fait aussi en fabrication. Donc, ces logiciels-là, ça doivent être à fin de pointe de la technologie parce que des acheteurs, des gens en approvisionnement, c'est comme tous les types de métiers. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans ces métiers-là aussi.
Exact.
Donc, où je m'en vais avec ça, c'est que tu automatises tes opérations de bureau, mais aussi sur le plancher. Donc, c'est ça qu'on veut faire avec le programme. Il y a des entreprises sorelloises qui ont levé la main. Il y en a une qui m'a permis là, de parler d'elle, c'est Boulet Porte-Fenêtre, qu'on a déjà eu une première rencontre avec les gens d'Investissement à Québec. Il y a un premier investissement d'une machine qui a été fait, puis on va poursuivre par la suite, voir c'est quoi les solutions.
Donc, une compagnie, David Place, pour que je comprenne bien, oui, je suis un novice justement, mais je veux comprendre. Moi, je suis un entrepreneur. Je fais face à des défis technologiques, par exemple. Est-ce que votre organisme peut m'aider là-dedans?
Oui, absolument.
Okay.
Ce que j'aime présentement, puis ça m'amène à parler de l'organigramme, c'est que mon directeur général adjoint, c'est Antoine Detillier, qui, lui, s'occupe des fameux fonds. Les fonds, on peut peut-être les nommer, là. On a le FLI, le Fonds local d'investissement. On a le support aux travailleurs autonomes. On a l'économie sociale. On a le FRR, le Fonds de ruralité, contrat avec la MRC. Et on a le Fonds Éco-Leader pour l'entreprise éco-responsable. Donc, Antoine, lui, c'est son champ d'expertise. Moi, vous vous rappelez du début de l'entrevue, j'arrive des 6 dernières années dans l'automatisation. Bien, évidemment, qu'entreprise innovante, ça va devenir mon créneau, permettre à nos entreprises de gagner en productivité et de remplacer les 5-6 travailleurs manquants par un robot ou de l'automatisation.
Pour demeurer compétitif.
Absolument.
Okay. Et ça, ça va aussi demander de la formation pour les travailleurs qui sont déjà là, à l'emploi de ces entreprises-là, parce qu'évidemment, l'automatisation, la numérisation, la robotisation, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, vous travaillez un peu avec les instances de formation, les maisons d'enseignement, le cégep.
Oui, c'est une bonne question, oui, effectivement.
Oui, très bon point. J'ai visité le hub du cégep au printemps. J'ai rencontré les enseignants qui sont là. On a des communications avec eux. Je pense à Jean-Philippe Hébert, oui. Philippe Petit. Les gens sont impliqués. J'ai visité le CTTEI. Évidemment que oui, on s'ouvre des portes. On fait partie de Montérégie économique. On a accès à un laboratoire de développement économique Longueuil où tous les sujets que je vous ai discutés peuvent être visualisés et ou utilisés par un entrepreneur. Donc, on a beaucoup de ressources quand même. Ça, c'est à part les subventions et ou les fonds qui peuvent être offerts en formation.
Parce que c'est des vrais défis, là. C'est ce qu'on a devant nous. Là, actuellement, on nous dit qu'avant 2031, la démographie ne va pas se rétablir, là. Donc, la pénurie... En fait, on nous dit même que la pénurie de main-d'œuvre va vraiment commencer en 2023. Donc, on est en rareté de main-d'œuvre actuellement. Ah. Donc, le travail que vous faites est d'autant plus important que devant nous, il y a
vous
des gros défis
en amont.
Pour les entreprises. Ouais,
vous le faites en amont, le travail.
Je pense qu'en abordant le point, on vient de tuer le mythe que les gens vont perdre leur travail. Ça, c'est archi
faux. Clair, hein?
C'est tout le contraire. Le travail qu'on fait devient urgent pour sécuriser les emplois existants.
Très bon point.
Et permettre à nos entreprises d'exporter et de gagner en productivité.
David Place, il nous reste une minute. Vous ne me donnerez pas un scoop à midi, je ne penserai pas, mais je vous ai posé la question au téléphone quand on s'est entretenu ensemble. Y a-t-il quelque chose qui s'en vient à Sorel-Tracy de majeur ou y a-t-il un projet en particulier qui... Il y en a beaucoup, je le sais. Monsieur Place, il me regarde. Pierre Manville, emmène-moi pas là-dessus. Non, mais vous pouvez nous dire s'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent?
Ben oui, je vais vous répondre. Vous n'aimerez pas ma réponse, mais on a signé des ententes de confidentialité puis on parle à des gens.
C'est correct. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir devant nous. C'est ça que ça veut dire.
Denis, ça veut dire que M. Place a répondu.
Oui, tout à fait.
Il ne peut pas dire, mais...
Il y a de l'espoir.
Ben,
il y a de l'espoir.
Non, mais je suis heureux. Je suis heureux d'entendre ça, M. Place.
On discute. Dans la MRC, les autres villes, il y a des belles choses qui se passent aussi. Je pense à Saint-Ours qui va accueillir, j'y vais de mémoire, là, on me corrigera, mais tout près de 600 nouveaux habitants, qui a un nouveau CPE de
bravo,
2 millions,
bravo.
Une nouvelle patinoire, puis qui a un entreprise.
Monsieur le maire, Sylvain Dupuis, oui, c'est vrai.
Mais même à Massouville, on voit la population a changé énormément. Là, entre le moment où moi j'ai été élu maire en 2005 et le moment où j'ai quitté en 2021, on a vu un changement dans la population, un rajeunissement, etc., etc. Donc, toutes nos communautés vivent du changement actuellement et c'est très positif.
N'oublions pas qu'on a 8 millions de pieds carrés disponibles pour les industries qui voudraient s'établir.
Si vous voulez une sous-location également, moi, je peux louer le 8 millions, il n'y a pas de problème. Et David Place, merci beaucoup. C'est gentil, c'est tout le temps qu'on avait, mais on va se revoir sûrement... Quand ça va être annoncé officiellement, toutes ces belles choses-là. Merci, parce que le but de l'émission, c'est de parler positivement et de façon optimiste de la région. Et je vois que vous êtes tout un optimiste. Vraiment, je suis heureux d'entendre ça. Denis Marion, David Place, merci. On se fait ça la semaine prochaine. Bonne fin de journée, tout le monde.
Merci, bye bye. Bonne journée.
Bye.